Je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast « Le maudit poids », prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué par ce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Prendre note que dans ce podcast, j'agis à titre d'animatrice. À noter donc que je ne peux endosser les propos tenus par mes invités puisqu'ils représentent leur opinion et expérience personnelle. En aucun cas, les propos tenus dans le cadre de cet épisode ne représentent des conseils nutritionnels personnalisés. Si jamais tu as besoin d'accompagnement, je t'invite à consulter le répertoire des nutritionnistes diététistes sur le site de l'Ordre professionnel des diététistes nutritionnistes du Québec, soit odnq.org. Merci et bonne écoute! T'écoutes le podcast puis tu te dis « Ah ouais, ça me parle vraiment. » Mais on dirait que j'écoute les épisodes, je regarde ton contenu, Sarah, puis je suis pas capable d'atteindre ça. Cette liberté alimentaire-là, d'être capable de lever les restrictions alimentaires, de lâcher le contrôle parce que la peur me retient puis je sais pas par où commencer. C'est un commentaire que je reçois souvent puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un nouveau webinaire le 6 décembre à 19h. Qui va se faire en Zoom, mais ce n'est pas disponible à l'heure de l'événement, il n'y a pas de problème, la rediffusion va être disponible. Donc, c'est mon webinaire « Libère-toi de ta peur, viens apprendre à briser les chaînes de la restriction alimentaire ». C'est disponible en événement sur Facebook ou dans mon Linktree sur Instagram. Sinon, viens m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de donner tous les détails. Petit avertissement avant l'écoute de cet épisode, on traite de sujets assez chargés émotionnellement, dont évidemment de grossophobie, de culture des diètes, de médication pour la perte de poids, mais également de suicide et d'agression sexuelle. Donc, si ce sont des sujets qui sont trop difficiles pour toi, je te recommande de passer à un prochain épisode. Salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Le maudit poids ». Aujourd'hui, je suis avec Audrey. Salut Audrey!
Salut Sarah, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Ça va super bien. Plus fatiguée aujourd'hui. Tu sais, souvent, on pose la question « Comment ça va? » Puis, on a tendance à toujours être dans le côté de « Ça va bien? » Puis, de rester dans cette énergie-là. Mais moi, je trouve que c'est important de dire « Bien, aujourd'hui... » On est plus fatigué aujourd'hui, c'est correct. On accepte ça de cette façon-là.
C'est vrai, hein? Non, mais je l'avais déjà entendu, ça. C'est comme le réflexe de dire « oui, ça va », mais tu sais, dans le fond, des fois, c'est non, la réponse, puis c'est correct de le dire aussi, puis de normaliser ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Dis-moi, Audrey, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu veux parler de toi un petit peu avant qu'on rentre dans notre sujet un petit peu plus précis aujourd'hui, qui est la grossophobie avec un gros G?
Oui. Bien, en fait, je m'appelle Audrey Gilker. Je suis la propriétaire, en fait, d'un centre qui s'appelle Consultation Bien-être. Donc, on parle de tout ce qui est santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle. J'ai un vécu en tant que professionnelle au niveau des ressources humaines pendant 7 ans. Et également, je suis médium. Donc, je fais de la canalisation, de la médiumnité. Puis ce que j'aime, en fait, c'est vraiment accompagner les gens dans leur vécu, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, comment que... des fois, il y a des espèces de questionnements qu'on a de la difficulté à mettre le doigt sur pourquoi. Bien, je viens, en fait, aider à ouvrir ces œillets-là pour vraiment... Tu peux poser toutes les questions que tu veux par rapport à la spiritualité, par rapport à... toi, ton vécu, des vies antérieures, peu importe, là, donc vraiment très, très large. Donc, voici un petit bref description de moi.
Merci, mais ça aide à savoir à qui on parle, en fait, donc j'apprécie. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai lancé une recherche d'invités, en fait, pour parler de différents sujets entourant, évidemment, le maudit poids. Puis toi, tu m'as dit, ouais, moi, là, Sarah, j'ai vraiment envie d'aller te parler de la grossophobie, autant dans le milieu de la santé que dans le travail, que dans le milieu même, tu m'as parlé de l'éducation. Fait que là, j'ai comme vraiment hâte parce que, ben on s'est pas tant parlé, gang, avant. Fait que je la découvre en même temps que vous, je trouve ça ça vraiment, vraiment cool. Moi, c'est mes épisodes préférés.
Mais c'est tellement le fun parce qu'on se découvre à travers ça, autant moi que je te découvre aussi à travers ça, que on va pouvoir s'accompagner à travers ça.
J'aime ça, une petite confiance mutuelle entre deux personnes qui ne se connaissent pas encore. J'adore. Yes. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de... Tu sais, tu parles de la grossophobie que tu as vécue. Je ne sais pas si tu as une certaine chronologie. Tu veux nous expliquer un peu ton parcours. Tu sais, des fois, j'aime ça partir de où tu veux en termes d'âge dans ta vie, mais de dire, ça a été quoi, toi, ton cheminement envers ta relation avec la nourriture, la relation avec ton corps, comment ça s'est passé dans ton développement et tout ça?
Ben oui, je peux faire ça de façon aussi chronologique. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé les années scolaires, quand j'étais au primaire, en étant vue comme la personne qui était la plus grosse de la classe. Pourtant, je regarde des photos aujourd'hui, puis je sais pas était où le surpoids dans toute l'histoire.
C'est ça. Hein?
Mais pour les gens, pour les enfants à cette époque-là, j'étais vue comme la personne qui était la plus grosse. Donc, j'étais beaucoup intimidée à travers ça. Mmh. Donc, ça a commencé vraiment très, très jeune au primaire, au point où, en sixième année, j'ai glissé un mot à mon enseignante en disant « Je veux mettre fin à mes jours. Comment je fais? Je suis tannée de vivre toute cette douleur-là. » Donc, tu sais, quand on parle de grossophobie, là, des fois, on se dit, c'est plus le côté de « On entend tout le temps parler de... » Oui, mais il faut que vous fassiez quelque chose, vous, pour que ça l'arrête. Fait que maigrissez. Mais c'est pas nécessairement la solution en soi.
Non, non, vraiment pas.
Parce que j'étais au primaire, j'avais déjà, avec mes parents, faisaient attention au niveau de leur alimentation. Elles faisaient des diètes. J'ai commencé des diètes parce que c'est moi qui l'ai demandé à mes parents. Parce que j'étais tannée. Donc, de faire attention par rapport à mon poids, je maigris beaucoup. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une connotation très négative que j'avais par rapport à l'alimentation, vu tout ce que j'avais autour de moi. Donc, ça l'a impacté énormément ma confiance en moi, mon estime de moi et ma santé mentale. Parce que penser qu'un enfant de 11 ans...
C'est ça, c'est terrible.
Je veux mettre fin à mes jours parce que je suis allée de vivre ça, c'est assez hallucinant.
C'est terrible quand même, puis je suis sûre que c'est encore... Tu dois pas être la seule à avoir vécu ça. Puis je fais une petite parenthèse parce que tu as dit, on nous dit comme on nous remet la solution entre les mains comme si c'était à nous de maigrir, mais tu sais, ben, premièrement, ça se fait pas comme on veut, puis c'est pas tout le monde qui peut perdre du poids. Puis même si c'est-tu vraiment ça la solution, ben non, tu sais, à un moment donné, c'est chacun ses choix, vivre et laisser vivre. Tu filmes, je t'écœure pas, tu sais. Je te laisse vivre. Tu sais, à moins que tu me filmes dans la face à 2 cm, peut-être je vais te demander de reculer, tu sais. Mais sinon, ça reste que c'est ça quand même, tu sais. Pourquoi dans la société, on accorde autant d'importance au poids des gens, finalement, tu sais. Fait que merci d'en parler.
Oui, puis pour moi, c'est important parce que à travers, tu sais, j'ai 33 ans aujourd'hui, puis à travers mes 33 années, j'ai vécu beaucoup d'injustices face à mon poids. Et plus je vivais de l'injustice, plus je grossissais. Mm-hmm. Autant, ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu me motiver, j'aurais pu aller plus vers l'anorexie parce que justement, il faut que je fasse attention à mon alimentation. Au contraire, il faut que j'aille peur presque de la nourriture. Mais moi, ça a fait l'inverse. Puis à travers ça, à travers mon vécu que je vais vous parler aujourd'hui, vous allez voir que il y a beaucoup de choses que c'est par rapport à la santé mentale à travers ça. Puis qu'il faut faire attention aux mots qu'on peut utiliser, aux paroles qu'on peut dire, mais aussi aux gestes. Parce que tout va, à travers ça, vraiment impacter la personne qui est en face de nous. Puis on peut des fois même pas s'en rendre compte parce que la personne a tendance à le cacher. Puis moi, ma mère, elle me disait tout le temps, « T'es très, très bonne pour cacher tout le mal que tu veux faire. » Donc, comme je disais, au primaire, ça a été hallucinant comme quoi que j'ai eu beaucoup de souffrance à travers ça. Mais moi, j'ai été intimidée jusqu'en secondaire 5. Donc, par rapport à mon poids, donc Moi, ça a été épouvantable. Comme...
C'est déjà rough l'adolescence là, en partant. Là. Déjà, là, tu sais, tout le développement identitaire, l'estime de soi, puis...
Les hormones
en tapis. Oui, aussi!
Oui, définitivement. Puis c'est hallucinant comment que c'est rough, puis comment que c'est difficile à travers ça. J'avais de la difficulté à avoir des amis. Parce que j'étais la grosse de l'école, j'avais de la difficulté à, en fait, savoir si j'avais une valeur. Parce que...
C'est ça, hein?
Essaye d'avoir une valeur quand qu'on te diminue constamment. C'est pas super facile. Et j'ai vécu, en fait, aussi, par rapport à l'intimidation, de la grossophobie, par une enseignante. Quand j'étais...
Oh my God! OK.
Donc, j'étais en secondaire 3, ouais, 3. Et j'ai vécu au point où elle diminuait mes notes. Elle
hein?
disait de vive voix, comme quoi que c'est parce que, justement, j'étais une grosse qui faisait rien.
Il y avait beaucoup d'intimidation
à travers ça. Au point où j'ai fait une plainte à la direction.
Mais je comprends donc.
Elle me faisait passer juste, comme on dit l'expression, sa fesse. Pour pas avoir à me revoir l'année prochaine.
Mais oui, longtemps.
Elle me le disait en pleine face, on était dans un groupe, une équipe, puis on s'entend que l'équipe a la même note, hein, sauf s'il y a quelqu'un qui fait absolument rien. Et moi, je n'avais pas
la Mais même voyons donc.
Moi, j'étais intimidée à rien de moi quand je faisais des oraux, donc je partais en.
Ben voyons donc! C'est donc bien traumatisant!
C'est traumatisant. Et quand j'ai fait la plainte à ce moment-là à la direction, on m'a dit malheureusement le système scolaire est trop entouré par rapport à j'essaie de trouver le mot là, le syndicat. Donc c'est pas possible de pouvoir faire quoi que ce soit.
Mais oui,
ils disent comme ben bonne chance, tu le refais l'année prochaine parce que moi je changeais d'école parce que moi c'était un secondaire 1 2 3 puis 4 5 je m'en allais dans une autre ville. Et elle a dit que j'étais pas supposée que mon nom soit sorti par rapport à une plainte.
Ben non.
Elle l'a su. Que c'était
ah ben, tabarouette.
Donc, elle a décidé de changer d'école pour aller dans mon école que j'allais aller.
Mais voyons donc, c'est quoi son problème?
Oui, ouais, c'était hallucinant. Elle a déménagé en dessous de chez mes grands-parents.
Hein?
Ça a été quand même très hallucinant comme...
Mais voyons donc! Que c'est ça?
C'est vraiment, pour vrai, c'est une histoire
J'ai jamais entendu de quoi d'aussi intense, sérieusement. Qu'est-ce que c'est ça?
Ouais, ouais, c'est...
C'était un enfant, là, voyons donc.
Oui, oui, un enfant de... On parle de quoi? 14 ans environ? 14-15
ans? Aïe!
C'était hallucinant. Elle vivait sûrement, tu sais, aujourd'hui, mettons que je pense en tant qu'adulte...
Oui!
Elle vivait sûrement de l'horreur elle-même, puis que... Elle le transmettait.
Mais ça n'a aucun sens quand même. Oui, oui, définitivement, ça part d'un problème de son côté, mais ça reste que c'est épouvantable ce que ça peut faire comme dégâts sur une jeune fille de 14 ans. Là.
Vraiment. Puis moi, je suis la plus vieille de 4 enfants, donc j'avais 3 frères en arrière de moi.
Hey, moi aussi, j'ai 3 frères! Excuse-moi. Oui! Oui. C'est rare!
Puis moi, pour moi, là, je ne voulais pas que les autres soient impactés.
Ah, je comprends. Ah, terrible.
C'était, mes frères ont eu à avoir cette enseignante-là.
Oh!
Et moi, j'avais extrêmement peur. Et ils faisaient toujours des messages en disant, moi, je n'avais rien dit à mes frères parce que je ne voulais pas qu'ils soient traumatisés. Puis j'étais quand même très cachetière quand j'étais jeune, par peur sûrement de moins être aimée. Et à ce moment-là... cette enseignante-là disait à mes frères, tu diras bonjour à ta sœur de ma part.
Oh mon Dieu!
Elle voulait constamment avoir peur. Cette personne-là, elle avait des cheveux rouges pétants. Donc, à l'époque, mettons qu'il n'y en avait pas beaucoup, en tant qu'enseignante, puis tu n'as pas le droit en tant qu'élève d'avoir les cheveux rouges pétants, là, si c'était comme un peu étrange. Mais ce qui faisait que quand je voyais des cheveux rouges pétants, ça m'est arrivé... d'avoir un choc. En fait, c'est un choc post-traumatique. Donc, j'ai tombé sans connaissance, j'ai tombé. J'avais peur, j'étais gelée. Donc, cette peur-là et le côté de me dire, en tant que jeune, en tant que femme grosse, tu ne peux pas vivre quelque chose de sain. Parce qu'on parle d'un adulte sur un enfant, l'autorité sur un enfant. Donc, ça a été quand même assez traumatisant, cette période-là. Puis, elle ne sait pas, mais je vivais quand même aussi une situation où est-ce que j'avais été en voyage l'année précédente et j'ai vécu ma première agression sexuelle.
Oh boy!
Et tout a enclenché pour que ça soit très, très difficile par rapport à mon poids, parce qu'à chaque fois que je recevais, que ce soit un compliment, je grossissais. C'était un automatisme. Et je sais encore aujourd'hui que j'ai ça à guérir, parce qu'encore aujourd'hui, je reçois un compliment par un homme, principalement, et je grossis. C'est automatique. C'est comme si mon corps, pour se protéger, se met cette carapace-là en disant « attention ». Puis j'ai vécu quand même plusieurs agressions sexuelles à travers les années, toutes par des inconnus, qui fait que si c'était toujours la même personne, je pense que ça aurait peut-être été différent sur mon corps, mais là, c'était tout le temps des inconnus dans des lieux publics. Donc, ce qui faisait que « essaye de dire il n'y a pas de danger dans n'importe quelle situation », pour moi, mon corps, je sais encore aujourd'hui qu'il y a ce choc post-traumatique-là de « attention, il y a toujours un danger qui peut arriver, lieu public ou pas. »
C'est terrible.
Ou connu. Donc, la grossophobie, là, on pense que la personne, puis tu sais, t'en as parlé au début, c'est quelqu'un qui mange parce qu'il a faim constamment ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis pas là-dedans. Et dans le sens que je mange pas nécessairement en grosse quantité. Et je regarde quelqu'un à côté de moi, il mange plus que moi. Puis moi, je peux avoir pris 5 livres quand la personne, elle a maigri de 5 livres. Donc, moi, c'est parce que mon cerveau a enregistré à des moments de faire attention, il y a un danger. Un peu comme la restriction, quand que le corps te dit « fais attention, tu vas crever de faim parce que là, on est en famine », mais c'est mon corps qui réagit d'une façon différente. Donc, pour moi, c'est important d'expliquer que ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de maigrir, parce que oui, tu sais, on va parler de grossophobie dans le milieu aussi santé.
Mm-hmm.
Puis j'ai envie encore aujourd'hui de dire, ben, on va te faire l'opération pour enlever une partie de l'estomac ou peu importe. Puis je dis, ben, dans le fond, tu vas juste changer mon trauma pour autre chose.
Ben, c'est vrai. Dans le sens que c'est vraiment un bon point que tu amènes, parce que c'est une discussion que j'ai avec certaines clientes parfois qui me posent la question sur la chirurgie. Puis effectivement, quand les apports sont déjà insuffisants, ça ne changera pas tant que ça. Ça ne créera pas vraiment les résultats qui sont attendus. Puis c'est la même chose pour la médication, pour la perte de poids. Parce que l'objectif, surtout quand on parle de chirurgie de l'estomac, quand on parle d'une chirurgie qui est plus complète avec l'intestin, là, c'est différent, mais on va vraiment juste aller contrôler la quantité qui va être ingérée. Mais quand la quantité est déjà faible parce que la relation est extrêmement troublée avec la nourriture ou qu'il y a un trouble alimentaire, on n'aura pas nécessairement les résultats attendus. Puis là, ça demeurera toujours du cas par cas, mais le nombre de clientes que je vois qui me disent la même chose, Audrey, c'est incroyable. Puis, mais c'est que c'est tellement ancré dans la perception des gens, de la société, puis même dans le milieu médical encore, on se le fait tellement répéter que ce qui fait prendre du poids, c'est de manger trop de calories, ce qui fait perdre du poids, c'est de pas en manger suffisamment, mais c'est tellement plus complexe que ça, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte, puis quand on mange pas assez, il y a des facteurs qui rentrent en ligne de compte aussi, qui viennent se mêler à tout ça, ce qui fait en sorte que les gens pensent que les personnes qui sont des corps gros, bien, c'est parce qu'ils mangent trop. Mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Vraiment, vraiment pas. Puis ça, c'est un très bel exemple de grossophobie qu'on retrouve dans plusieurs milieux. Mais oui, effectivement. Puis il y a comme... Je pense aussi qu'il y a une méconnaissance, puis une espèce de malaise. Parce que là, on le voit de plus en plus, on en parle de plus en plus. Les professionnels de la santé s'en font parler. Mais je pense qu'il y a comme... Alors, on est dans une espèce de tournant qu'il y en a qui sont pas du tout intéressés puis qui sont fermés puis qui revirent ça du revers de la main. Mais il y en a qui sont comme, OK, je comprends, mais je fais quoi? je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire, je pèse-tu la personne, je pèse-tu plus, j'en parle-tu, j'en parle-tu pas, j'y parle-tu des options plus thérapeutiques, j'y parle-tu pas, c'est... Il y a comme une espèce de malaise puis qui fait partie du processus, mais je pense que le point majeur, c'est de retenir que si vous voyez quelqu'un qui est dans un corps gros, pensez pas automatiquement, s'il vous plaît, que la personne mange plus que vous. Des fois, elle mange même moins que vous. Puis, ben, il y a plein de facteurs que vous connaissez pas qui rentrent en ligne de compte, dont des super bons facteurs que tu as nommés, mais il y en a tellement aussi, là, tellement d'autres. J'appelle ça mon océan de facteurs qui joue sur le poids. Là.
Mais c'est hallucinant comment il peut en avoir. Ça peut être autant des nutriments que ça peut être psychologique, que ça peut être physique, que ça peut être peu importe, génétique aussi.
Parce mm-hmm. Très génétique aussi.
Il y a aussi ce côté-là. Puis moi, j'ai cette discussion-là avec mon médecin. Donc moi, j'ai eu la chance de choisir mon médecin parce que j'ai
oh, wow! Arrivé. OK! Ah!
Je le paye, mais je l'ai choisi, quelqu'un qui ouais. avait et qui a encore aujourd'hui un côté de la santé mentale, une connaissance et une envie d'en connaître plus, une envie de prendre le temps, en fait, avec moi, de pouvoir regarder. Et cette année, je me suis surprise à poser la question « Comment tu peux m'aider à perdre du poids? » Et c'est là où est-ce que je me suis dit « OK, qu'est-ce qui s'est passé? » Parce que j'ai posé la question, j'ai demandé de la médication. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'année qu'on ne s'est pas vu, en disant, et c'est là où est-ce que j'ai vu beaucoup au niveau, principalement de TikTok, mais des réseaux sociaux, l'Ozempic. J'imagine que tu as entendu parler.
Ben oui, bien sûr, bien sûr.
Et c'est ce qui m'a prescrit finalement après avoir parlé. Et quand j'ai eu cette prescription-là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et la réponse a été non. Et je ne l'ai pas pris finalement, même si c'est moi qui ai demandé, parce que j'ai compris que c'était une influence de les réseaux sociaux, qu'il fallait que je maigrisse. Et ça m'a fait de la peine de penser que moi qui travaille très fort sur moi à m'accepter de plus en plus, j'ai eu cette, en guillemets, faiblesse-là, de dire « j'ai envie, moi aussi, de maigrir, de perdre du poids ». Puis en fait, ma solution n'est pas nécessairement ça. Mais moi, c'est difficile, tu sais, mettons, on parle d'aller au cinéma, aller voir des spectacles, aller à quelque part. Je suis tannée de ne pas être capable de rentrer confortablement dans des sièges. Je suis tannée de, dans un avion, prendre la classe affaires parce que les bancs réguliers, je me sens pas à l'aise, que je suis pas bien, que demander une ceinture supplémentaire, c'est humiliant. Donc, c'est là où est-ce que je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, parce que là, ça, il y a quelque chose qui fonctionne plus. Et c'est là que je me suis dit, bien, je vais aller travailler plus au niveau de ma santé mentale que physique. Parce qu'en fait, c'est ma santé mentale qui montre, en fait, qu'elle a un besoin. Elle a besoin, elle est prête à aller nettoyer des traumas. C'est ça qu'elle explique, en fait. Puis, je l'ai expliqué à mon médecin. Je dis, tu sais, parce qu'on avait déjà parlé de faire les chirurgies et tout, j'ai dit, moi, mon problème, c'est pas ça. J'ai dit, tu me fais ça, mettons que tu me proposes ça, bien, je sais très, très bien que je vais avoir une autre problématique qui va sortir. Puis ça se peut que ça soit j'aille grossir plus, comme ça peut être de les jeux, l'alcool, si ça. Puis ça, là, j'en ai parlé avec des psychologues qui m'ont dit, ça crée des addictions ailleurs par la suite. Et en ce moment, ce n'est pas mis de l'avant davantage. Pourtant, il y en a plein qu'après ça, ils créent d'autres addictions. Parce que le trauma, il s'en va pas, lui.
Mais c'est ça, t'amènes un bon point. Puis, tu sais, là, je généralise pas parce que c'est pas tout le monde qui passe par la chirurgie qui ont des traumas, fait que c'est pas tout le monde qui vont le vivre. Mais il y a tellement, puis là, tu m'allumes, puis tu me fais vraiment plaisir de parler de Ozempic puis de chirurgie. Parce que, premièrement, si on reste sur le sujet de la chirurgie, c'est sûr que si un volet psychologique qui n'est pas adressé, il va être là après. Pareil, souvent mes clients vont me dire qu'ils l'ont vécu, ils vont me dire « Sarah, on m'a parlé le système digestif, mais on m'a parlé pas le cerveau. » Puis ceux qui ont vraiment, que ça fonctionne bien puis qui sont heureux après, c'est qu'ils ont vraiment travaillé ce volet-là. Malheureusement, d'eux-mêmes, en allant chercher les ressources, parce que c'est rare que présentement dans le réseau, les ressources soient offertes. Puis là, il faut avoir le privilège d'avoir les ressources financières pour le faire. Fait que oui, il y a ce point-là. Puis la médication, c'est un petit peu la même chose, c'est d'être bien informé. T'sais, ton exemple montre vraiment la facilité à quel point on peut se le procurer maintenant, alors que présentement, c'est drôle parce qu'au Canada, on n'a pas le... Techniquement, c'est pas indiqué pour la perte de poids. Ça va le devenir bientôt avec le Wegovy, mais présentement, le Zampic, c'est pour le diabète. Ça fonctionne dans bien des cas, super bien, mais dans les cas comme toi, où les gens ne mangent pas suffisamment, on n'a pas les résultats escomptés, puis il y a plus de risques, il y a des risques de carence, il y a des risques quand même sévères, mais... C'est ça, c'est que c'est tellement ancré que, ah ben, tu sais, en mangeant moins, tu vas perdre du poids, fait que ça va marcher le médicament. Mais non, le médicament, ce qu'il fait, c'est qu'il vient rassasier, faire le signal de rassasiement comme si tu avais mangé. Mais si tu manges déjà pas beaucoup, ça va pas jouer sur ton métabolisme, ça va pas faire brûler les gras directement. Puis, je suis pas contre du tout, je suis pas pour non plus, je suis neutre, tu sais, moi, je suis un professionnel de la santé, puis c'est toujours du cas par cas, puis ça va toujours être ça, mon discours, puis je veux pas qu'on commence à shamer les gens qui veulent en prendre. Puis, tu as dit un mot qui m'a vraiment interpellée tantôt. Tu m'as dit, j'ai l'impression d'avoir vécu une faiblesse. Non, Audrey, c'est pas une faiblesse. Tu as le droit de le vivre, ça. Tu l'as dit, tout ce que tu as nommé tantôt avec les bans dans l'avion, les bans dans les salles de cinéma, c'est ton niveau de contrainte. Tu sais, c'est bien beau, là, moi, femme blanche et mince, de dire, acceptation corporelle, accepte-toi et tout. Mais tu sais, si toi, dans ta vie, dans ta qualité de vie, tout ça, tu juges que... Bien, ça te nuit, puis tu as le goût de mettre des actions en conséquence, puis que tu cibles la bonne action. Ça fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas militante contre la grossophobie de vouloir perdre du poids. Tu as tout à fait le droit de le faire. Puis ça, je pense que c'est un discours qui, en tout cas, c'est un discours qui me tient énormément à cœur parce que je vois de plus en plus dans ma clientèle des femmes qui m'arrivent avec la honte de dire je suis gênée, mais je veux de l'information sur l'Ozempic. Je suis gênée, mais je veux de l'information sur la chirurgie, mais j'ai peur que tu m'en reviennes d'abord parce que anti-diète, c'est comme anti-chirurgie, anti-médication. C'est pas ça, mais c'est ce qui est véhiculé un petit peu. Fait que tu me fais vraiment plaisir avec ce petit bout-là, entre autres. Là, ça, tu sais, je pense que c'est des points sur les i qu'il faut vraiment aller mettre. Là.
Oui, mais moi, c'est surtout le fait que j'ai posé la question en image en disant c'est pour maigrir, mais c'est aussi parce que j'accepte de plus en plus mon corps. Mais pourquoi j'ai demandé cette médication-là? En fait, c'est parce que j'ai eu un peu l'influence des réseaux sociaux. Pas parce que j'ai envie d'être absolument mince et si ça... C'est pas ça au départ, c'est le côté de... Je suis tannée de devoir dire « Hey, je m'excuse, je peux pas aller manger sur... » la terrasse, parce que les bancs ont aucun sens pour quelqu'un qui a un corps gros.
C'est terrible, pareil. Hein? Puis ça, on a un rôle à jouer aussi dans l'environnement, dans les structures, dans la santé publique. Il y a vraiment, tu sais, c'est pas normal que ça te revienne sur les épaules, toi, de dire « OK, mais je vais prendre ça en charge parce que mon corps est plus accepté à ces endroits-là, tu sais. » T'as le droit de trouver ça difficile, t'as le droit de dire « Moi, ça affecte tellement ma qualité de vie que ben je veux voir les possibilités, puis c'est vraiment correct. » Puis encore là, personne ne doit juger ça. Je répète, personne ne doit juger ça. Mais c'est quand même terrible que ça, c'est ça, c'est que la responsabilité te revient comme toute sur les épaules présentement. Là. C'est ça le message que ça envoie. Là.
Mais vraiment. Puis ça, c'est super désagréable parce que je sais que, exemple, tel 6 mois, je peux pas y aller. Parce que je m'en vais là et je ressors avec des marques épouvantables sur les cuisses par douleur, ou est-ce que j'en ai eu, ou est-ce qu'il y avait du sang, en fait, parce que
c'est... Ben voyons donc! Fini.
Mais pourtant, je suis comme, mais voyons, je comprends pas qu'il y ait personne qui fait absolument rien, puis de dire, est-ce que je vais aller dans une place où est-ce que je suis vue comme un handicap parce qu'il faut que je demande une place handicapée?
Ça n'a pas d'allure, hein?
Je veux dire, tout est vu comme... C'est difficile, comme, d'un, pour l'orgueil, l'estime de soi.
C'est sûr.
Quand que tu t'en vas avec des amis, « Hey, ça te tente-tu d'aller dans un spectacle et tout? » Puis finalement, tu fais comme... Oui, ben, je m'en vais regarder. Est-ce que les sièges sont adaptés? C'est pas quelque chose qui est agréable en soi de faire. Puis en même temps, pour l'instant, en ce moment, dans la société où est-ce qu'on vit, j'ai pas le choix de le faire.
Puis c'est quand même intéressant que tu le mentionnes parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Parce que quand, justement, tu vis dans ton privilège d'un... Puis là, je vais te dire minceur, mais même pas minceur. Tu vis dans le privilège que t'as pas de contraintes par rapport à ton physique. T'es juste pas au courant. Puis c'est pas parce que tu veux pas être au courant, c'est juste que t'es pas au courant. Fait que je trouve ça vraiment encore plus important d'en parler. Mais c'est toute une charge mentale que t'as, là. Puis après ça, on se demande pourquoi il y a si peu de représentation. Tu vas dans un espace public puis tu te dis, il me semble que les pourcentages que je vois dans les statistiques, ça ne fit pas avec ce que je vois dans les espaces publics. Bien, posons-nous la question, tu sais, pourquoi? Bien, c'est ça, ça peut être une piste de réponse. Puis, mais oui, c'est toute cette charge mentale-là qui joue sur la santé mentale, qui va affecter le poids au final. Tu sais, c'est ça la spirale. Puis on a les études qui nous parlent des effets de la stigmatisation à l'égard du poids, comme quoi, justement, oui, ça nuit à la santé mentale, mais ça nuit à la santé physique aussi. Puis ça peut engendrer un gain de poids. Puis j'ai jamais compris le discours de « shamons les personnes qui sont dans des corps gros, ça va les motiver à perdre du poids ». Depuis quand shamer quelqu'un encourage la personne? Tu l'as dit tantôt, moi, ce que j'ai reçu comme message, c'est que j'ai pas de valeur. Donc, si j'ai pas de valeur, pourquoi je prendrais soin de mon corps? Pourquoi je ferais des actions qui feraient prendre soin de mon corps? Ça fait aucune logique, mais c'est perpétué depuis la nuit des temps, tout ça, là.
Tellement. Puis pour moi, c'est important. Puis moi, j'ai un centre au niveau du bien-être. Et pour moi, toutes les chaises n'ont aucun appui bras.
Yes. Good job.
Pour moi, c'était essentiel. Les chaises qui ont une capacité pour avoir plus de 500 livres sur la chaise. Parce que on va pas commencer à faire attention à s'asseoir à tel endroit, attends, peut-être que la chaise, elle va briser, qu'est-ce que les gens vont penser. Non, c'est des chaises confortables qui n'ont pas d'appui-bras, que tout le monde peut s'asseoir dessus sans stress. Les tables de massage, c'est la même affaire. Tout est fait pour que tout le monde se sente confortable. On n'a pas à se poser la question. Puis moi, j'ai même fait la piste de réflexion à mon propre médecin de famille qui,
j'aime ça,
avait des chaises avec des appuis-bras. Et quand que je suis rentrée, j'ai dit, je suis désolée, est-ce que tu as d'autres chaises?
Hey, mais bravo de l'avoir dit, pour
est-ce
vrai.
Est-ce que ça fait du bien son orgueil? Non.
Ah, oh, mais ça y appartient, là.
Exact. Mais j'ai posé, tu sais, j'ai dit, t'as plein de chaises. Ils ont tous des appuis-bras. Fait que où est-ce que je m'installe? Sur le petit banc que je sais pas si un jour il va tomber, tu sais. Fait que, ben c'est pas le fun. C'est pas le
mais
fun
c'est sûr.
De le mentionner, mais il m'a fait aucun jugement. Puis quand j'ai dit j'ai choisi mon médecin, c'est pas pour rien. Aucun jugement. On peut en parler. Puis moi, j'ai dit, c'est difficile de parler de ce sujet-là quand on a l'impression que tous les jours, j'ai des micro-agressions.
C'est ça.
Par rapport à ça. Donc, exact. Je vous dis une affaire, puis ça se peut que j'explose en disant là, pas encore. Là, je suis tannée, là. Puis, il est conscient. Puis, c'est là où est-ce que c'est agréable de pouvoir en parler. Parce que, moi, comme j'ai dit, je suis avec un médecin privé. J'ai ce privilège. J'ai pris, en fait, ce choix de diminuer. Ben, j'aime pas le mot diminuer, mais en fait, de faire des choix différents dans ma vie.
Ouais.
Pour pouvoir m'offrir un médecin qui va me correspondre davantage. Et... quand que je m'en vais dans le système privé, c'est autre chose. J'ai dit privé, public, excuse-moi. Dans le système
autre
chose.
Ah, mon Dieu, j'imagine.
J'ai un rein et on m'a dit, ben, t'es grosse, fait que c'est pas une bonne idée.
Oh my God! Mais voyons, le monde!
Puis, dans le sens de, tout ce que je disais n'était pas valide. Donc, c'était épouvantable comme situation et pour finalement, avec les scans que j'ai eus avec tout ça, faire « Ah, ben oui, t'as une pierre au rein.
» Ouais, finalement. Oups!
Retourne chez vous parce qu'on n'a pas assez de lits. Retourne chez vous.
Hein?
Une semaine, si ça passe pas, ben on va faire l'opération.
Oh, OK.
Mais tout ça, c'était des micro-agressions de la fille à chiale trop. Donc, on m'a mis dans une salle comme un peu enfermée. Puis, j'entendais les infirmiers et infirmières dire à chiale un peu trop, on va la laisser patienter encore un peu.
Ah, ben tabarouette! Franchement!
Puis moi, j'entends ça de l'autre côté, puis je souffre, je pleurais, je n'étais plus capable. On était dans la période de COVID où j'étais seule, où est-ce qu'on ne pouvait pas amener rien à boire en soi. J'étais en douleur extrême. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui t'accompagne, il peut aller te chercher de l'eau, peu importe. Là, rien. J'avais de la difficulté à me lever. Juste aller... Ils m'ont pas piqué à la bonne place pour faire l'iode et tout, donc j'ai dû retourner. On m'envoyait pas au bon endroit. C'était hallucinant. Cette nuit-là, parce que j'ai passé quand même plus de 12 heures. Cette
nuit d'enfer.
C'était épouvantable sur... Même dans le système médical, je suis vue comme une personne plus que grosse. Là. C'était comme...
C'est rien. Une
personne qui est fatigante, là. Regarde, on va la laisser de côté, là, elle va souffrir encore. Puis,
c'est terrible.
C'était hallucinant. Puis moi, je savais pas, mais il y a une médication, là, je trouverai pas le nom, mais une médication pour la douleur qui ne fonctionne pas avec moi. Donc, je cherche, puis je la trouverai pas le nom, mais une médication qui normalement fonctionne pour les gens, mais moi, ça ne faisait absolument rien. Donc, quand je retournais en me disant « je suis désolée, mais moi, je souffre, je peux pas », mais eux autres, c'était « hey, je te l'ai donné ». Fait que c'est pas parce que t'as un corps gros qu'on va t'en donner plus.
Hey, oui, c'est fou.
Il y avait plusieurs choses comme ça qui est vu, qui étaient quand même très difficiles dans cette nuit-là.
Mais c'est tellement un beau résumé de tous les préjugés qu'on peut entendre. Puis, tu sais, même là, c'est quasiment des caricatures, là. Tu sais, des fois, on parle de grossophobie, puis on dit, ah, tu sais, c'est comme dans les films, tu sais, les enfants plus gros, c'est toujours, les personnages plus gros, c'est toujours ceux qui sont un peu naïfs, sont moins intelligents, sont niaiseux, sont fatigants, sont chialants, nanana. Puis on se dit, ouais, tu sais, dans la vie de tous les jours, tu sais, c'est pas de même, là. Voyons, les gens, ils pensent pas ça. Oui, il y en a qui pensent ça encore aujourd'hui, tu sais.
Ah oui, c'était hallucinant, là, parce que là, c'était, ben là, c'est normal. Parce que c'est normal que tu as mal au dos. Tu sais, t'as un
secours. Mais oui. Ben oui. Ça peut pas être autre chose, hein. Ben non. Mais non, j'ai pas le droit d'avoir de l'arthrose. Moi, j'ai pas le droit d'avoir des pierres aux reins. J'ai pas le droit d'avoir rien de tout ça, là. Ben non. Hey, ça me tue, là.
J'ai été voir parce que j'avais un problème au niveau d'un genou. Parce que, dans le fond, de génération en génération, malheureusement, que je suis en train de travailler, mais. Il y a de l'arthrite dans la famille. J'ai été voir quelqu'un au niveau de mon genou, il m'a dit, ben là, toi, t'as de la graisse dans le genou.
excusez-moi. Oh my God!
Il va falloir que tu maigrisses parce que si ça continue, là, tu pourras pas marcher. Fait que, il va falloir que tu fasses quelque chose. Fait qu'il m'a prescrit des Advil et du quelque chose pour, tu sais, une crème... très froid, chaud, là, je me souviens jamais.
Voltaren ou... Non, ça, c'est anti-inflammatoire, mais je comprends ce que tu veux dire, là.
Mais c'est Voltaren.
Deep Call. C'est Voltaren, bon. C'est un peu anti-inflammatoire, là.
Avec deux Advil.
Wow.
Ou 6 heures.
Pour de l'arthrite. Parce que t'as de la graisse dans le genou. OK.
J'ai eu le diagnostic d'arthrite, puis... Mais pas avec cette personne-là, hein?
Non, évidemment.
J'ai vu cette personne-là. Mais je suis comme, c'est
fatiguant.
À chaque fois que tu t'en vas voir un médecin, c'est la première chose, tu sais que tu as un surpoids.
Mais non, hein, merci. Je m'étais pas vue dans le miroir ce matin. Haha. Voyons, je sais pas. Je comprends pas ce qui se passe dans leur tête. Tu sais, quand je te dis, on dirait qu'ils savent pas quoi faire, là. Puis c'est tellement inconscient, mais c'est tellement là. C'est tellement gros pour pas faire un mauvais jeu de mots. C'est tellement gros, mais c'est comme ils s'en rendent pas compte. Puis après ça, on se demande, puis ça, c'est un point super intéressant aussi, c'est qu'après ça, on se demande, ben on dit là que oui, les personnes qui sont dans des corps plus gros, ils ont plus de risques d'associer à des maladies dans les études, mais est-ce que ces personnes-là osent consulter à temps? quand il y a un problème ou ils attendent vraiment qu'il n'y ait pas le choix parce que justement, ils se font vraiment intimider ou stigmatiser quand ils consultent. Puis, ce serait vraiment intéressant d'avoir des études qui se penchent là-dessus puis qui croisent avec les données sur le risque de maladie aussi parce que là, tu le démontres très bien avec ton cheminement. Je veux dire, n'importe qui nous écoute qui n'est pas dans un corps gros, qui se met dans tes souliers puis qui vit ça, t'as pas le goût de retourner consulter après, là, puis c'est bien normal, là. Puis c'est terrible en soi, mais c'est bien normal, là. C'est épouvantable.
C'est désagréable, puis j'en ai un, celui qui m'a dit que j'avais de la graisse dans le genou.
Et ça, excuse-moi, là, je ris, là, mais c'est pathétique, là. Simonac!
Mais cette personne-là m'a dit que j'étais grosse, je devrais me faire opérer pendant 15 minutes en me regardant dans les yeux, jusqu'à temps que je me mette à pleurer. Puis là, j'ai dit, je pense que j'ai compris le message.
On peut-tu...
Assez. J'ai dit, est-ce que vous n'êtes pas la première personne? Là, c'est assez. Je veux m'en aller.
Wow! Parce
que cette personne-là, puis me regardait dans les yeux, jusqu'à temps que je me mette à pleurer pour me dire, tu sais, tu vas mourir bientôt parce que là, avec ton... comment que t'es grosse et tout, c'était hallucinant. Et au point où, quand je suis sortie de... c'était dans une clinique externe de l'hôpital, j'ai appelé ma mère en pleurant de faire comme... J'en peux plus de ça.
C'est sûr, André! C'est sûr! Je veux dire, qui serait bien de vivre un événement comme ça? Puis pourquoi les gens se sentent obligés d'aller jusque-là? T'sais, tu peux avoir des inquiétudes, j'imagine, en tant que professionnel de la santé, si t'es le médecin ou quoi que ce soit, mais un professionnel que tu consultes comme ça pour un problème précis, c'est-tu vraiment à lui de t'en parler? Est-ce qu'il y a une façon d'en parler? S'il juge que c'est à lui de t'en parler, parce que ça peut peut-être... Est-ce qu'il y a une façon d'en parler qui pourrait être douce, qui pourrait être bienveillante, qui pourrait être... Est-ce qu'il pourrait au moins, te demander avant c'est quoi ton passé? C'est quoi qui se passe au niveau de ta relation avec ton médecin? En avez-vous parlé? C'est quoi les enjeux autour de ça? T'as-tu un trouble alimentaire? Non, on associe ça direct, puis bing, on fait juste tourner le couteau dans la plaie, puis let's go, tu sais.
Mais ça, c'est dans plusieurs domaines. Puis c'est ça qui est désagréable, parce que ouais. Le niveau de la santé, tu sais, j'ai vu quelqu'un au niveau gynécologique qui a eu le même genre de réaction.
Ouais. Ça, c'est ouais.
De, ben là, c'est normal que tu as des ovaires polycystiques parce que tu es grosse.
Ah, ça, je l'ai entendu souvent aussi, ouais.
Je suis comme, OK, parfait. Je parle avec quelqu'un qui a un corps plus mince que moi, qui a des ovaires polycystiques et qui ne s'est pas fait dire parce que c'était des grosses, elle. Ben, elle en a, elle. Des kystes aux ovaires, de difficultés à pouvoir avoir des enfants un jour. Mais moi, c'était tu ne pourras pas parce que t'es grosse.
Ah, ça, là. Ça, c'est un autre sujet qui vient me chercher, là. L'accès, parce que là, tu sais, tu parles de ça, on pense des fois à l'accès au traitement de fertilité, où les femmes se font souvent demander une bonne paire de pas pour pouvoir avoir accès au traitement, parce que, bon, plein de plus ou moins bonnes raisons, parce que oui, peut-être dans les études, on voit que ça risque de moins bien fonctionner, il y a peut-être plus de risques, mais on est qui pour se prendre pour Dieu puis décider qui peut enfanter, qui peut pas enfanter, alors que c'est au niveau du poids, ça fait... Moi, ça me fait tilter, là. Je trouve ça épouvantable. Je trouve ça d'une injustice sévère. Hein?
Puis tu sais, je suis comme si on allait être les premières personnes dans un corps gros à avoir des enfants.
Ben, ça, c'est l'autre point. Il y en a plein. Est-ce que c'est des mauvais parents? Ben non, tu sais. Parce qu'on dirait que c'est ça. Moi, ça me fait penser à coudonc. C'est parce qu'on pense que... C'est quoi la vraie raison derrière? Je ne l'ai pas trouvée encore. Je la cherche. Si vous l'avez, appelez-moi. Ça va me faire plaisir. Parce qu'on opère en chirurgie bariatrique, on opère à des poids élevés. T'sais, oui, des fois, il y a une diète liquide qui va être faite avant pour essayer de d'engorger le foie, des choses comme ça, réduire les risques. Mais pourquoi on opère, puis qu'il y a une chirurgie assez extrême au niveau du stress sur le corps, puis des risques, alors que ça... Mais tu sais, écoute, c'est pas mon domaine, je connais pas tout le détail du détail, mais je trouve ça quand même... vraiment, vraiment épouvantable de pouvoir jouer avec le rêve de la personne d'être parent, là, qui n'est pas une petite affaire. Là. Tu sais, ça définit ta vie là, en fonction de ton poids. C'est dégueulasse. Là. Carrément. Là, ça, je... Ça, ouais, c'est ça. Ça, je capote.
Ouais. Puis ça se peut que ça soit par peur que finalement la personne elle accouche puis elle décède en tant que maman. Ça se peut que ça soit ça. Mais est-ce qu'il dit ça à une femme qui va accoucher de 3 bébés parce qu'elle a des triplets puis que son ventre va devenir gros? Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup plus de choses que juste le corps gros de la personne. Tu sais, c'est pas le fun, c'est pas agréable comme sentiment, puis ça brise des rêves. Aussi.
Mais vraiment, puis ça peut être, tu sais, on parlait de santé mentale, à quel point ça peut être ravageur, là, parce qu'on va se le dire, des fois, c'est des grosses pertes de poids qui sont demandées, là, c'est pas possible, là, c'est vraiment pas possible pour tout le monde, puis là, si on revient à la médication, ben là, il y a l'Ozempic maintenant qui va des fois être prescrit, mais il faut l'enlever quand t'es enceinte. Parce qu'on n'a pas d'études qui disent que c'est sécuritaire. Fait qu'on va te faire perdre ton poids. On sait pertinemment que tu vas le reprendre parce que les études montrent que quand on retire la médication, il y a une reprise de poids. Mais là, ça, c'est plus grave.
C'est ça.
J'ai pas compris la logique. Mais encore une fois, écoute, je suis pas gynécologue, je suis pas endocrinologue, je suis pas... Mais ça reste que la base de tout ça est dégueulasse quand même. C'est rochant, là.
Oui, définitivement. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'on en parle de ces enjeux-là, qu'on en parle de... Moi, je me suis fait dire que avoir des enfants, ça va être impossible.
Mais voyons.
À nombreuses reprises par les ovaires polycystiques, parce que j'ai des kystes, plusieurs, mais parce que j'avais un corps gros aussi.
Oui, c'est ça, hein, ce qu'on dit ça à tout le monde, qu'il y a des ovaires polycystiques.
Donc, c'est hyper désagréable comme sentiment, comme injustice à travers tout ça.
Puis ça va loin parce que même, tu vois, il y a des femmes qui m'ont partagé aussi que pour avoir la réduction mammaire, parce que justement, des fois, c'est difficile sur le dos, c'est difficile sur la structure, la posture et tout. Il faut avoir une grosse perte de poids aussi. Des fois, si on dépasse un certain IMC, ils voudront pas opérer. Mais à quel point c'est un cercle vicieux, tout ça, là?
Oui. C'est hallucinant. Puis pourtant, quelqu'un qui n'a pas nécessairement un besoin plus grand de perte de poids, ben eux autres, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de perdre de poids pour pouvoir enlever. Pourtant, ils vont enlever la même quantité.
Mais oui.
Donc, tu sais, à travers tout ça, il y a sûrement une logique qu'on ne comprend pas.
Mais ça doit être une affaire de risque, mais encore là, à quel point je serais encore là très curieuse d'en apprendre plus sur ce niveau de risque-là. Parce qu'encore une fois, on opère des gens en chirurgie bariatrique, qui est une chirurgie quand même pas mal plus invasive, là. À moins que ça soit plus le cas maintenant parce qu'on est rendu tellement hot, tu sais, peut-être aussi. Mais reste que, tu sais, c'est souvent des problèmes respiratoires quand on va mettre la personne et qu'on va faire une grosse opération comme ça. Mais reste qu'une anesthésie générale, mais rendu là, je répète qu'on opère des gens en chirurgie bariatrique. On est qui pour décider que cette personne-là, on ne prend pas le risque ou on prend le risque? Et... Puis là, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est le chirurgien, c'est quand même lui qui est responsable. Oui, je comprends. Mais reste que, c'est ça, est-ce qu'il y a de la grossophobie là-dedans? Peut-être beaucoup aussi. Est-ce qu'il y a des biais grossophobes là-dedans? Peut-être beaucoup aussi, tu sais.
Oui, définitivement. Puis, tu sais, l'autre point que j'avais envie, en fait, d'aborder, c'est le milieu... de l'entreprise.
Mm-hmm.
Parce que là aussi, il y en a des biais grossophobes. Ça, c'est pas super parlé, c'est pas super mis de l'avant pourtant, parce que je me souviendrai toujours, je venais de commencer ma carrière au niveau des ressources humaines. J'avais un espoir immense en ressources humaines égale on veut prendre soin de l'humain derrière. Je suis tombée de mon échelle.
Ouais, hein?
Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon entreprise, c'est l'inverse que je mets de l'avant, parce que moi, c'était ça que je voulais mettre de l'avant au départ. Puis j'ai lu un article, je me souviendrai toujours, c'était sur LinkedIn, qui disait « N'engagez pas de personnes grosses. »
Hein? Sur LinkedIn? Ben non! OK, aussi frette que ça, aussi évident. Tu sais, d'habitude, c'est comme, ils pensent, mais ils le disent pas, c'est sinueux, mais on a des études qui nous démontrent que oui, ça existe, la grossophobie dans le milieu de travail, puis oui, il y a des gens qui sont privilégiés par leur minceur et compagnie.
Oui.
Mais je pensais pas que quelqu'un aurait osé. Oh my God, ça fait-tu longtemps? Ça fait-tu plusieurs années? Ou...
Ça fait plusieurs années, ça doit faire 5 ans et plus.
Mais quand même, c'est pas 20 ans non plus, là. Au! Oh.
Et... Cette personne-là était membre de l'Ordre des ressources humaines agréées.
Oh, wow!
Et je me souviens d'avoir lu l'article et d'être choquée à un point tel. Mais en même temps, les points qu'ils mentionnent, c'est les points que tu fais. Ben, tu vois, ça l'explique tellement la grossophobie qui se vit dans le milieu de l'entreprise parce que on parlait de attention par rapport à les assurances santé. Les gens dans un corps gros vont être plus malades. Les personnes avec un corps gros vont demander plus de congés, vont prendre plus au niveau de l'assurance, donc ta prime va être plus chère.
Seigneur.
La personne le disait de cette façon-là, coûte que coûte, et les gens qui répondaient n'avaient pas nécessairement de dire « t'as tort ». C'est un point de vue, tu sais, dans le sens que les gens étaient peut-être un petit peu plus politically corrects, mais entre toi puis moi, je peux pas croire que cet article-là ou que cette personne-là n'a pas été enlevée.
Hein, tellement.
Ordre-là, parce qu'on parlait de même pas engager une personne avec un corps gros parce que ça allait te demander énormément d'argent.
Mais voyons donc, c'est terrible. Vous ne
devriez pas avoir un salaire équivalent parce qu'elle va te payer plus cher en assurance. Elle va être en congé plus souvent. Puis, moi, personnellement, ça m'a dégoûté à un point épouvantable de dire, quand on est rendu à faire un article et le mettre aussi clairement et que ça ne soit pas dénoncé vu de l'avant, aussi fort, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, dans le sens que ça veut dire que c'est accepté.
C'est toléré, là. Ben oui.
Juste de, à voix haute dans tout ce que les personnes disaient à voix basse.
Oh my God!
C'était hallucinant. Puis moi, je l'ai vu, je l'ai vécu avec des personnes qui disaient, par exemple, juste des commentaires que tu fais, mais pourquoi? Dans le fond, c'était pas nécessaire. De dire, on prendra pas les marches parce qu'Audrey est avec nous.
Mais voyons.
Ouais, c'est vrai, toi, c'est mieux de prendre l'ascenseur avec toi.
Mais hein? Ben, voyons.
Tu sais, des messages que tu fais comme, ben c'est pas super le fun. Hey, excuse-moi, faut que j'appelle mon ami. Tu sais, mon ami, puis là, elle décrit l'ami avec le mot. Que la personne est grosse et blablabla, puis faire, hey, je m'excuse, est-ce que ça t'insulte quand je parle de mon ami? Mais là, tu fais comme, hein? Pourquoi ça m'insulte?
Okay.
Pour comprendre que finalement, c'est parce que c'est de la façon qu'elle te voit aussi.
Aïe, aïe. Puis, on a-tu vraiment besoin de décrire physiquement une personne quand on en parle à une autre personne?
Non.
C'est profond, là.
Donc, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai vu que. J'ai trouvé extrêmement difficile à voir et de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que pour moi, c'est une injustice.
Ben oui.
Assez hallucinante de dire. Puis, je vais faire une parenthèse, OK? Parce que une personne qui est, par exemple, dans un corps gros, qui a une estime de soi qui est beaucoup plus faible, une confiance en soi plus faible, je te confirme que ça va être les personnes qui vont travailler le plus fort.
Ah, ben c'est sûr, je suis pas inquiète. Je suis zéro surprise d'entendre ça, là. Zéro surprise.
Elle veut se prouver. Elle veut prouver. Mais
oui.
Valeur supplémentaire. Mais
c'est terrible pareil. Mais on parle de santé mentale, là. C'est rochant là-dessus, là.
C'est hallucinant. Au cas où. Puis, des trucs qui peuvent se faire de façon très sneaky, très par en dessous, mais que finalement, toi, t'es en tant que professionnel qui le voit. Moi, je ne pouvais pas être dans un domaine qui pouvait autant discriminer des gens et dire haut et fort, je ne discrimine personne et c'est illégal.
Mais ça, honnêtement, puis c'est des recommandations de... Tu sais, je pense à la table québécoise sur la saine alimentation qui a fait un super beau projet avec le collectif Vital, anciennement Coalition Pou. Ils ont changé leur nom, puis le groupe Equilim. Puis ils ont fait des infographies où ils recommandaient dans les milieux de travail, justement, d'instaurer, entre autres, des politiques contre la grossophobie, au même titre qu'on a des politiques maintenant sur tout ce qui est... pas agression sexuelle, là, cherche mon mot, mais tout ce qui est autour...
Harcèlement sexuel,
merci. Mon cerveau a lagué pendant un instant. On a ces politiques-là. Ben oui, je pense qu'on est rendu là à avoir des politiques sur la grossophobie au travail, puis on doit prendre ça au sérieux. Puis dans les écoles aussi, pour ramener à ce que tu as vécu plus jeune, c'est des choses qu'il faut que soient vraiment prises au sérieux parce que ça a des conséquences.
Mais tellement. Puis c'est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Puis, tu sais, pour moi, là, ce qui est important à travers tout ça, là, c'est de dire que tu as une valeur égale à quelqu'un d'autre.
C'est beau, ça.
Qu'à l'intérieur de toi, là, peu importe le corps que tu as, la couleur que tu as, peu importe, OK? Tu as une personnalité, tu es une personne unique à part entière. OK? Ton corps est simplement le véhicule pour que tu puisses te rendre où est-ce que tu veux, où est-ce que tu as envie. Mais en fait, entre toi et moi, tu as une vie unique à vivre. Puis les expériences que j'ai vécues, autant que ça l'a pu être et que c'est encore des challenges aujourd'hui, moi, mon message, c'est je ne me laisse pas faire aujourd'hui. Et c'est plus dans le côté de, ben, je vais te prouver. Je vais montrer à quel point que on est tous différents, on est tous uniques par rapport à tellement de choses, puis que ta vie vaut la peine d'être vécue.
Tellement. My God, c'était vraiment un beau mot de la fin. En vrai, je pense qu'on va arrêter là parce qu'il n'y a rien qui va battre ça. Je trouve ça magnifique comme conclusion. J'ai comme vraiment le goût que les gens restent avec cette phrase-là dans la tête parce que c'est vraiment puissant, puis c'est vraiment important, mais vraiment important comme message.
Puis pour moi, c'est hyper important. Puis pour moi, par rapport à autant quand que je parle de la santé mentale, que je parle de la santé physique, par rapport à la spiritualité, on a toute notre vision, on a toute notre façon, on a toute notre vécu, notre expérience. Puis ça fait de nous une personne unique. Puis de dire, ben tu sais quoi? Ben moi, je vais juste montrer mon unicité, point.
Parce exact.
Qu'on est unique tous et chacun. Même si la personne à côté de toi fait exactement la même chose que toi, peu importe, tu es unique et les gens vont être attirés vers toi, point à la ligne.
Puis respectons qu'on est tous... On peut avoir des opinions différentes, mais on a tous droit au respect.
Tellement. Je pense que c'est la Merci. Clé de tellement de choses.
Totalement. Oui, c'est vraiment la base qui est beaucoup oubliée là, dans la société, le respect, mais tu vois, ça c'est une demi-valeur très profonde. Là. Ça vient me chercher beaucoup, d'où l'injustice aussi, mais oui, c'est vraiment, c'est quelque chose de base, mais qui est oublié. Donc, voilà. Vraiment. Audrey, merci. Merci énormément. C'est une très belle surprise, cette discussion-là, une très belle découverte. Tous des messages ultra importants qui vont résonner, je pense, chez plusieurs personnes.
Bien, merci à toi, Sarah. Puis pour moi, ce qui est important, c'est que tout le monde sache qu'à travers tout ça, bien, tu as ta force puis tu as ta place dans la société.
J'adore. Merci. Ouais, vraiment. Merci beaucoup. Puis pour les autres, bien, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci de ton écoute. Si jamais tu as des commentaires ou des suggestions sur le podcast, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux Sarah Normandin, nutritionniste, Facebook et Instagram. Tu peux aussi consulter mon site internet sarahnormandinnutritionniste.com. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi.